L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Ça t'arrive une grêle, ça t'arrive un manque d'eau, et bien qu'il soit l'opportunité pour toi pour rebondir là-dessus avec une culture, une diversification, une transformation des légumes que tu n'avais pas prévu. Et en fait, qu'il soit, enfin, il ne faut pas culpabiliser la nature, il ne faut pas la charger de nos attentes économiques, mais au contraire, en essayant de faire avec, en essayant d'être souple par rapport à la réaction à ces aléas, et bien, moi j'y trouve du sens et ça c'est beau.
Alors moi je m'appelle Lara, que je suis maraîchère et paysanne boulangère à Salasque, installée en GAEC depuis 2020. Alors en fait, moi je me suis installée en tant qu'entreprise individuelle comme maraîchère cotisante de solidarité en 2018 sur un petit jardin ici à Salasque. Après, Andrea parallèlement aussi il a créé son exploitation sur une plus grande surface et c'était voilà maraîchage mais un peu plus mécanisé alors que moi je faisais une petite surface et beaucoup de transformations végétales. Et après, à un moment donné, on va dire que le passage au GAEC, ça s'est fait quand on a décidé de commencer à cultiver des céréales pour la fabrication du pain. Et puis, on a petit à petit, on s'est agrandi. Et là, maintenant, on a 12 hectares, mais on va dire 10 cultivables. Et chaque année, on fait 3-4 hectares de blé.
Vous êtes d'origine italienne, c'est un peu loin de l'Italie. Comment on est parachuté à Salasque, Lara ?
Alors, on est arrivé à Salasque en 2017. En fait, avant, on habitait à Marseille, un collectif. C'était un collectif d'habitants, c'était dans les quartiers nord, donc des quartiers un peu difficiles de Marseille. Tous les deux, on avait des boulots parallèles. Moi, j'étais animatrice avec des écoles, des quartiers pour faire le jardin. Et André, il travaille dans un conservatoire de conservation des graines anciennes. Mais on partageait dans ce collectif-là un très, très grand jardin avec tous les autres habitants. Et on hébergeait des migrants aussi du centre-ville qui venaient tous les dimanches à faire du maraîchage avec nous. Donc voilà, c'était vraiment un projet très collectif. Donc on s'est posé la question. Moi, j'étais enceinte de la deuxième fille. Et du coup, on s'est dit, si on veut continuer ce travail d'agriculteur, continuer dans cette direction de cultiver la terre et faire en sorte que ce soit notre métier, il faut bien qu'on aille chercher des terres et s'installer quelque part. Entre-temps, André, elle avait trouvé un boulot comme professeur en maraîchage biologique à Béziers. Et c'était l'occasion, lui, il a fait un stage avec ses élèves à Salasque. Nous, on s'est dit de suite, mais c'est beau, il y a l'eau qui coule en permanence, l'eau des sources. Voilà, malgré la chaleur, du coup, on peut vraiment cultiver des choses toute l'année. Et c'était pas trop loin, du coup, de Béziers, où André a travaillé. Donc, on a trouvé cette maison, on a trouvé un petit jardin, et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure.
Ce qui nous a amené ici, c'était le fait qu'il y avait des terres de très haute valeur agronomique, abandonnée dans un état d'emboisement depuis 30 ans. Je ne dis pas en proximité du village, mais à l'intérieur du village. Les meilleures terres qui ont été cultivées par les ancêtres, les terres qui reçoivent les béales, ils étaient en abandon depuis 30 ans. Mais du coup, ça, on est tombé amoureux de cette cascade, de cette eau qui coulait, de cette terre qui demandait juste à être remise debout. Quand on est en bio, on ne va pas avec un tractopelle à tout détruire dans une journée et après, on passe la charrue derrière. Après, c'est nous qui, derrière, on aurait cultivé. Si on aurait ravagé d'entrée en faisant des défriches très agressives, Et bien, on aurait tellement bouleversé le sol, et déjà on l'a fait. Ça veut dire que ces terres qui s'abandonnent perdent définitivement leur fertilité pour différentes années, le temps nécessaire, qui est les bactéries, les champignons et les horizons du sol puissent être remis en état de culture. Donc en fait, c'était long ce travail de défriche. Et les défriches, quand même, ils ont coûté des années de mauvaises récoltes ou de problèmes telluriques, soi-disant. On les appelle comme ça, de problèmes du sol. Et ça donne des résultats parce que oui, en fait, on arrive à rentrer des récoltes, avoir des récoltes et d'apprendre au fur et à mesure du parcours. Mais il ne faut pas rêver la manque d'eau, il ne faut pas rêver l'état de sol dans notre vallée, qui ce n'est pas des vallées très fertiles à la base. Et c'est pour ça qu'a été fait l'eau du lac, et c'est pour ça qu'ont été faits des investissements par les collectivités pour permettre l'agriculture ici, qui c'est un zonage, même visuellement, des paysages désertiques. L'eau et la matière organique et le travail du sol en surface donne les résultats, mais c'est sur le long terme et ce n'est pas forcément immédiat et il faut de la patience. Nous, on ne traite pas, c'est plutôt simple, on travaille la terre, on n'utilise pas la charrue, mais on utilise des outils à dents juste pour griffer le sol. Et en fait, on sème et dès qu'on sème, en fait, on n'a plus rien à faire jusqu'à la moisson, sauf les clôtures électriques pour le gibier. Parce que c'est étonnant, ils veulent que bouffer du blé bio. En fait, les champs de blé conventionnels, ils sont moins attaqués par les gibiers. Et en fait, c'est très facile de voir un champ bio, soit il est clôturé, soit il n'a pas de récolte. Il sert à manger ici dans la région. Ce sont les sangliers notamment, mais pas que. Il y a aussi de petits gibiers qui en profitent. Mais c'est surtout les sangliers, le vrai dégât.
La boulangère, c'est Lara. Alors, cette farine que Andrea te fournit, tu es contente de ton fournisseur ?
Alors, il pourrait faire mieux. on a expérimenté plusieurs choses. Première chose, on voit que selon la variété des blés et les mélanges qu'on fait, ça change complètement le type de pain. Parce que effectivement, ces blés anciens, ils ont des caractéristiques complètement différentes des blés modernes, et chacun il a ses caractéristiques propres à niveau d'arôme, à niveau de quantité, type de gluten qu'il y a dedans, à niveau de même de couleur, de la croûte. Enfin, donc il faut s'adapter beaucoup selon le mélange. Donc nous, on a fait des tests avec différents types de blés. Et c'est vrai que moi, la première année, chaque semaine, j'avais des sacs de farine différents. Et du coup, c'était vraiment la surprise, combien d'eau je vais mettre dedans à chaque fois, tester la consistance de la pâte, pour ne pas faire de n'importe quoi, voilà, des galettes ou des choses qui n'ont pas de forme. Ou au contraire, essayer à chaque fois d'hydrater au maximum la pâte, parce que le pain, il est meilleur, il est plus digeste, il est plus souple et tout, il se conserve mieux. Mais voilà, donc jusqu'à quel point on peut hydrater cette pâte et comment aussi les gens y réagissent, parce qu'ils ne sont pas habitués des fois à ce type de pain qui est quand même des fois, voilà, il est un peu plus dense selon le type de blé, s'il a moins de gluten. Il va avoir des arômes plus prononcés qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils ont une habitude, souvent un goût très neutre. Donc tout ça, vraiment, c'était une période de test. Et là, on est arrivé à stabiliser un peu. Enfin, on a compris les variétés que pour nous, ça nous correspond mieux. Ça, j'ai fait des 100% petites épeautres. Seigle, j'ai le mélange souvent avec le blé parce qu'on n'a pas assez de production. L'idée, c'est aussi de faire peut-être un pain de campagne basique avec le mélange de tous nos blés. Et après, faire un pain peut-être plus tout zèle, donc qu'il y a vraiment très peu de gluten pour des gens qui sont intolérants ou voilà. Mais plus on se diversifie, plus c'est pas évident à gérer, parce que ça augmente vraiment la charge de travail. Puis tout est fait à la main, le pétrissage. Donc pétrir 50 kilos de pâtes. Donc si tu commences à faire beaucoup de pâtes différentes, voilà, à chaque fois c'est un nouveau pétrissage. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Dans toute cette variété des choses, on essaie aussi de simplifier un peu la vie des fois.
Alors le pain, de la farine, de l'eau, Il faut quelque chose pour que ça pousse. Alors,
c'est mais de la levure, la levure chimique.
Voilà, donc pas de levure de bière ou c'est quoi ? C'est quel le type ? C'est uniquement au levain ?
Moi, voilà, c'est le levain. Donc, on fait du levain à partir du seigle complet. Et après, voilà, tous les deux jours, je le rafraîchis. Voilà, donc il est vraiment dans notre frigo. C'est très précieux parce que des fois, on a, ça se trouve que la petite, elle casse le pot et qu'on perd le levain. Heureusement, on a soit un deuxième pot qu'on garde, mais des fois, j'ai pas pensé. Du coup, il y a toujours le monsieur qui me prête ce four où je travaille depuis 3 ans. Qui lui aussi fait du pain pour soi, donc il a du levain, donc c'est chouette qu'on sait qu'il a toujours une réserve.
Ce pain, on y a mis du levain, et ça a poussé, on est content, il faut le mettre au four. Le four, il faut le chauffer. On le chauffe comment, ce four ?
Donc on le chauffe à bois, et ça aussi, c'était un coup de chance d'avoir une petite scierie juste à côté, à 5 minutes d'ici à Mérifonce. Donc lui, messieurs Delage, il a des chutes de bois, non traitées, voilà, brutes comme ça, qui me vend pour pas trop cher. Et voilà, c'est vraiment là, c'est le four où je travaille, c'est un four à l'ancienne, donc bâti avec des pierres. On va mettre dedans quand même, je dirais peut-être entre un quart, une demi-stère de bois à chaque fournée. Moi, je le laisse chauffer 2h, 2h30, et après, au bout d'un moment, il est prêt. Il est peut-être même à 400 degrés, enfin voilà, il est très très chaud. Donc après, on attend un moment que ça se refroidisse. On enlève les cendres, on le nettoie. Et puis quand c'est le bon moment, voilà, on peut enfourner. Et ça, c'est aussi le truc de trouver le bon moment où la pâte est prête. Le four, il est assez chaud et pas trop chaud, parce que c'est le risque de fois, je chauffe trop le four. Et parce que la pâte au levain, en plus, elle a vraiment 30 minutes de temps où si tu ne prends pas le bon moment... Elle se dégonfle. Après, elle devient hyper acide, tu ne peux plus rien faire. Donc, vraiment, tu as ce timing-là. Il faut vraiment bien s'accorder entre le four, l'arrivée des clients, le moment où la pâte est prête, la chaleur de l'ambiance. Voilà, c'est passionnant, on va dire.
Comment se fait la commercialisation ?
Alors, la commercialisation, nous, depuis qu'on est arrivé, des suites, on a vu que dans ce village, à Salasque, il n'y avait pas de commerce d'alimentaire. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une manque quelque part. On a fait pendant 2 ans vraiment que du maraîchage. Donc, on a commencé à faire des paniers hebdomadaires. Donc, d'abord une fois, après 2 fois par semaine. Et ça marchait très bien parce qu'effectivement, je pense que les gens, ils avaient besoin d'avoir quelque chose sur place, frais et comme ça, très local, biologique. Voilà, on a vu qu'il y avait cette demande-là. Après, quand on a commencé avec le pain, ben alors là encore plus, parce que le pain, c'est vraiment un aliment de base. En tout cas, en France, les gens le consomment quotidiennement. Et du coup, pain plus légumes, ça fait que voilà, les gens ils viennent là 2 fois par semaine au four directement, une fois qu'on sort le pain, donc il est chaud en plus. Et les légumes, ils viennent d'être récoltés, donc tout est vraiment très frais. Et donc ça, on a trouvé, c'était quelque chose qui a bien marché. Après, ça ne nous suffit pas parce qu'on s'est rendu compte que même si il y a quand même une clientèle, il y a encore beaucoup de gens qui ont leur tradition. Alors, le village de Salasque, c'est un village aussi où il y a beaucoup de gens, de personnes âgées. Ils ont leurs habitudes, la baguette, ou alors au supermarché, voilà, ils font leurs courses traditionnelles, ils n'osent pas trop. En plus, nous, on est étrangers, donc il y a aussi ce côté-là. Des fois, ça peut être un avantage, des fois, pas trop. Voilà, on expérimente ça aussi. Et du coup, voilà, les gens, quand ils viennent, des fois, ils n'osent pas. Enfin, on voit bien qu'ils passent devant le four, ils n'osent pas, parce qu'en plus, c'est sur commande, voilà. Donc, petit à petit. Et puis, on s'est dit que là, il faut absolument vraiment qu'on aille en dehors de la vallée aussi, trouver de nouveaux marchés. Parce que là, voilà, on est obligé de faire un peu plus de production pour avoir deux salaires corrects, quoi.
Alors, on n'a pas eu le temps de parler des légumes, mais bon, on a compris, et les auditrices et les auteurs ont compris que vous faites aussi des légumes, et tout ça en bio. Pourquoi le bio ? C'est quoi pour vous ? Ça représente quoi ?
Alors, moi, je pense que la question pour nous, c'est même pas posée, en fait, parce que ça est... Enfin, je veux dire... Mais pour tout, je pense que c'est vraiment... Déjà, je pense que pour faire du conventionnel, il faut être des personnes très, très carrées, presque des techniciens. Enfin, tu vas traiter tel jour, telle quantité, acheter tel... Nous, notre mode de vie, ce n'est pas du tout ça. Enfin, nous, on y va beaucoup sur l'intuition, le jour à jour. Donc déjà, je trouve que c'est C'est des contraintes qu'on s'est mis artificielles quelque part, qui ne correspondent pas vraiment à notre fonctionnement, même psychologique. Après, j'étais habituée toute petite à manger biologique. Donc, pour moi, c'est même pour comment on se soigne. Voilà, on se soigne beaucoup avec des médecines naturelles. Ça fait partie de toute une vision. Donc, pour nous, ça a été, je pense, un peu naturel de faire comme ça. Et puis, André, je pense qu'il est sur ce côté-là. Il est vraiment très, très passionné aussi à niveau de recherche. Enfin, qu'est-ce que ça donne le bio par rapport à d'autres, sur le plan de la santé, sur le plan aussi de la santé des sols, sur le plan aussi des rendements sur le long terme. Il est passionné vraiment à un niveau plus scientifique de ce que c'est, de ce que ça donne le bio.
Oui, à la base c'était ma formation. Du coup, moi j'ai étudié philosophie à Bologne à la base. Et le déclic, c'était vraiment mes études sur le sens des choses, de se poser des questions et observer qu'est-ce que ça donne, nos actions sur l'environnement, mais entendu dans le sens très large. Et j'appréciais ce qu'a dit Lara sur la question sur le moyen long terme. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure. On est poussé aussi par une société qui nous demande des résultats sur cette année, cette saison. Il y a des unités de temps qui dans cette unité de temps, il faut une certaine production. Et moi je ne vis pas comme ça. C'est une vision eschatologique. C'est une vision du temps assez, je trouve, passée. Et ce que je trouve intéressant, c'est plutôt des cycles. C'est entendre le temps, le travail et le retour sur le travail, sur des cycles biologiques qui, du coup, ils vont sur les saisons, bien évidemment, mais ici aussi sur plusieurs saisons. C'est les séries de saisons qui font l'intérêt, c'est pas l'épisode. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment l'enseignement, enfin, une des enseignements du monde paysan. Ça te grêle dessus deux jours avant les vendanges, et puis tu te prends comment? Eh bien, il a fallu faire des réserves, j'espère que vous n'avez pas tout distillé. Enfin, il a fallu raisonner avec des plantations de nouveaux plantiers, il a fallu raisonner sur le moyen long terme. Et donc, prévoir une sorte de résilience de ta ferme vis-à-vis de l'aléa. Et par contre, le type de société productiviste dans laquelle on vit, eh bien non, tu demandes le résultat dans une petite unité de temps. Et voilà la piège du produit chimique, voilà la piège du raccourci, voilà ce qui, en fait, ça nous fait perdre du sens. Donc, c'est l'intérêt de faire de la graine, de la semence paysanne jusqu'au pain, de la graine, parce qu'on est pépiniériste, du coup, au jardin, nous, on fait nous-mêmes nos plantes. Et quand même, pour un hectare de légumes, un hectare et demi de légumes, il y en faut des plantes. Et bien, ce travail-là, ça nous permet de suivre ce cycle biologique. Ne cherche pas la maîtrise, mais quand même de jeter un œil dessus pour pouvoir après rendre compte aussi de ce qu'on fait. Et souvent, on ne peut pas trouver le coupable parce qu'en fait, on fait tous un petit bout d'un chemin qui nous amène vers... quand même, je ne dis pas l'autodestruction, mais c'est l'environnement et les souffrances. Les paysages sont les paysans qui les entretiennent. Et donc, moi, je trouve que le bio, il peut entretenir la quête du sens. Et donc, c'est ça qui tient debout le paysan vis-à-vis des aléas. Enfin, le fait qu'il y a du sens. Donc, tout tient.
Lara, des projets ? Pour les prochaines années, des rêves, pourquoi
alors,
pas ?
Oui, alors...
J'ai entendu parler de moulin, donc...
Oui, alors, ben, le moulin... Après, moi, je vois, en général, hein, on est arrivé après 5 ans, 6 ans qu'on travaille ensemble, André et moi, on est arrivé un peu en point de se dire aussi, ça serait chouette qu'il y ait plus de collectifs, en fait, parce qu'on se rend compte que la charge de travail, elle est immense. Les pressions économiques, voilà, la difficulté à trouver des terres, à trouver les débouchés, voilà, et plus, t'as la vie de tout le monde, hein, t'as les enfants et tout ça, et tous ces changements climatiques. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qui font qu'il y a... Ou alors, peut-être, nous, on la ressent beaucoup, mais voilà, je pense qu'en parlant avec des collègues, c'est vraiment ça, il y a beaucoup de pression. Et si on arrivait à s'organiser, ou alors même les institutions, ils soutenaient des démarches collectives dans le sens et des partages, voilà, de mettre ensemble vraiment des terres, des machines. Nous, on voit que nous, notre difficulté pour les céréales, ça a été ça. Il n'y avait pas une cumin, donc on a dû acheter pas mal de matériel. Donc tout ça, je trouve que voilà, dans l'avenir, si moi j'ai un souhait, ça serait qu'il y ait d'autres paysans comme nous, pas exactement comme nous, mais différents, mais dans le même esprit de, voilà, de faire des petites surfaces, qu'on puisse partager du matériel, mettre ensemble des connaissances, des semences, travailler d'une manière plus collective.
Lara et Andrea, merci pour votre accueil, merci pour tout ce que vous faites, merci pour la joie et l'enthousiasme et la passion que vous semblez mettre dans ce que vous faites, un poil de poésie aussi. Merci et bon courage.
Merci,
merci à vous.
C'était Lara Tonoli et Andrea Dascagno, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.